Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Vous êtes là, bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Charles Pélabon. Et la gourmandise de ce matin, c'est un roman de science-fiction de 1952, L'homme démoli, de l'américain Alfred Bester, avec lequel j'aurais adoré avoir un lien de parenté, mais ce n'est pas le cas, ne serait-ce que parce qu'il eut la bonne idée de léguer sa maison et ses droits littéraires à son barman. Rêveur fécond et visionnaire plein d'autodérision, Bester imagine en 1952 un univers futuriste dans lequel les flics et les psys sont télépathes. Impossible donc dans ces conditions de préméditer le moindre crime, mais dans ce New York du 24e siècle, un ambitieux torturé du nom de Ben Reich est sur le point de se livrer à un contre-exemple historique. À moins que sa psyché soit pénétrée par celle des liseurs de pensée, il échappera à la démolition. Je ne vous dis pas en quoi cela consiste, mais je vous recommande chaleureusement ce roman qui fit grande impression sur de chic types comme Philip K. Dick ou Brian De Palma. L'œuvre est intemporelle et réjouissante, sa liberté narrative est semblable à une partition de jazz et sa drôlerie, sa poésie et son originalité en font un grand texte. Notre apothicaire de l'âme est un être curieux, dans les deux acceptions principales du terme. Il imprime les pellicules de Claude Chabrol, Jean-Pierre Mocky ou Christian Vincent, adapte avec Patrick Bouchitet Bukowski au cinéma, co-signe le premier film de Cédric Clapiche, anime un légendaire standard téléphonique dans Nulle part ailleurs, parle philosophie à la télévision, musique dans Charlie Hebdo, Harakiri, rock'n'folk actuel ou sur les ondes du Move, chante et joue de la guitare en racontant ce qu'il appelle sa vie de jolie fille, et publie des ouvrages aux titres cordiaux tels que J'ai beaucoup souffert, je vieillis bien, je suis décevant ou on ne se voit plus qu'aux enterrements, heureusement, il y en a souvent. Je mets tout au présent, car on ne sait jamais où attendre ce charmant éclectique qui affirme avoir toujours été dénué de vocation avant de se comparer à un bouchon au fil de l'eau. Un bouchon charmant qui se décrit comme étant sans ambition, aimant faire des choses qui n'aboutissent à rien. Il préserve sa liberté en fuyant les appartenances et promène sa supposée nonchalance et sa fantaisie engageante sans stratégie. Un mec qui fait des trucs. C'est ainsi qu'il s'est toujours vu. Dans les trucs que je n'ai pas cités, il y a le métier de dessinateur industriel qu'il exerça jusqu'à ses 25 ans, ou encore la présentation du magazine documentaire Cut Up sur Arte. La posture décalée de notre apothicaire, sa tenue à l'écart des cercles d'ambition peuvent également être vues comme une forme de sagesse. J'avais envie d'utiliser le mot sapient, mais c'est un mot prétentieux et cela jurerait avec l'homme que nous accueillons. Bonjour Jackie Berroyer.
Bonjour.
Première question rituelle, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Oh, je ne sais pas, le même que la plupart des gens chez qui ce n'est pas une maladie. Et donc maintenant, comme vous ne tarderez pas à me parler du remède, si, au cas où j'en aurais un, parfois je le suis, paraît-il, moi.
On vous
alors,
le dit.
Alors des fois, il me suffit de me téléphoner à moi-même. Non, alors en fait, justement, je suis le seul avec qui ça ne marche pas. Évidemment. Mais enfin, bon, la mélancolie, hein, c'est pas encore quelque chose à se rouler par terre.
Mais parfois, vous faites des rôles dans des films de personnages comme ça, doux, amers. Vous n'avez pas cette mélancolie que vous montrez souvent dans les films ? Une mélancolie douce ?
Oui, oui, peut-être, hein, peut-être. C'est-à-dire, si je prends... une devise qui n'est pas forcément la mienne, mais à laquelle je peux adhérer, qui est accepter de perdre ses illusions sans renoncer à l'émerveillement. Vous vous promenez avec ça après.
Et vous arrivez à vous promener avec ça, Jackie Berroyer ?
Ça vient de Lucien Gerfagnon, qui était un philosophe, enfin plutôt un historien de la philosophie, mais qui a beaucoup de fantaisie et de douceur et de lucidité. Et donc, c'est bien comment ça se passe, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que les gens qui ne sont pas particulièrement névrosés ou vraiment très malades connaissent quand même la mélancolie, ces moments où, on est presque un peu triste, et puis qu'on n'en connaît pas forcément la raison. Et donc, il y a des gens comme ça. Moi, je pense que parfois, on est venu me dire « Ah ben, un jour, tu m'as sorti de ça parce que j'ai éclaté de rire dans un de tes livres » ou un truc comme ça, ou t'ayant vu au cinéma dans une scène. Et je me dis « Oh ben, tant mieux, si ça a produit cet effet. » ça m'arrive à moi aussi en lisant des livres. Alors, mais déjà arrivé d'expliquer que le remède pouvait venir pour moi. Mais alors, c'était plus que la mélancolie, hein, quand vous êtes...
Dépressif.
Vous avez beaucoup de chagrin. Enfin, ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai beaucoup recours à la lecture. Mais si je ne vais pas bien, je ne vais pas aller chercher les choses. Je ne vais même pas aller chercher les préceptes stoïciens. Je vais pas aller voir le dernier film de Funès, pour autant. Ça va pas marcher. De la même façon que je vais pas prendre un avion pour aller sous les palmiers, parce que je vais être sous les palmiers avec ma mélancolie. Alors, je vais raconter une anecdote. Un jour, j'étais très mal. C'était au temps où on avait encore le téléphone branché. On n'avait même pas les moyens d'y échapper en aucune façon, sinon arracher la prise. Je dis bien arracher parce qu'il n'y avait même pas des systèmes où on l'enlevait comme ça. Ces gros téléphones noirs et ces fils noirs. Bon. Parce que vous savez, je suis très vieux, chers auditeurs.
Arrêtez de vous vanter.
Et alors, j'étais dans un séjour où j'étais en manque de quelqu'un. Vous savez, va-t-il ou va-t-elle téléphoner alors je tourne en rond, ça me travaille, j'arrive pas à y échapper. J'ai débranché le téléphone, d'abord, comme ça, en disant, comme ça, je n'ai plus à attendre. Combien même 10 secondes après que je l'ai fait, la personne m'aurait appelé, je ne pouvais pas. Et puis j'ai pris un livre, et je me rappelle, pour l'anecdote, effectivement, que c'était un livre... Inlisable, dirons-nous
oui,
presque.
Je confirme.
Vous savez que le platonisme a duré 1000 ans. Alors c'était devenu un peu comme la Bible, comme du texte révélé. Tout le monde, et même les intellectuels, travaillaient à partir de Platon, comme s'il avait tout dit et qu'il fallait faire quelques variations. Et donc j'ai voulu lire un livre d'un platonicien de la fin, vers... quand les Romains ont commencé à fermer l'académie, eh bien, j'ai mis le nez dans ce livre.
C'était Damasius. Traité des premiers principes.
Voilà, les premiers principes. Damasius, c'était un diadoque, c'était un patron de l'académie, un des derniers et des plus prestigieux. Et donc, un type qui peut vous faire 50 pages sur l'indicible, donc écrire pendant 50 pages sur ce quoi on ne peut pas écrire. Et c'était tellement...
Puissant
et en même temps difficile à comprendre qu'il m'a fallu faire des efforts qui ont fait qu'en comprenant un tout petit peu m'est arrivé une satisfaction, c'est-à-dire l'esprit qui vient de faire une conquête, eh bien, vous apporte des joies. Et j'étais sorti de ma mélancolie.
C'est ce que vous m'avez dit hors antenne, Jackie Berroyer, que vous, votre réaction lors des accès de mélancolie, c'était plutôt de faire un effort intellectuel. On va d'ailleurs aborder plein de gens comme ça qui vous extraient de vous. Dans quelques instants, vous allez convoquer Louis Jouvet, Céline, une poule, un philosophe néoplatonicien, enfin pas sûr puisqu'on vient d'en parler, les visions de Lautréamont, le professeur Choron, Franck Zappa, la pratique musicale, les Mills Brothers, le peintre Félix Vallotton et des histoires drôles. Juste après une jolie promesse de Clara Luciani, on ne meurt pas d'amour.
Don't let me go.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jackie Berroyer.
Mais
oui,
c'est mon concerto. Ça n'est pas mal du tout.
Il joue remarquablement.
Elle joue remarquablement. C'est une femme. Non, c'est une jeune fille.
Une jeune fille?
Oui, écoute, elle joue bleu. Elle a de l'imagination et aussi de la sensibilité. Elle est romanesque, secrète et pourtant spontanée. Elle rêve encore sa vie.
Mais là, elle rêve peut-être, mais toi tu divagues.
Oh, ce n'est encore qu'une enfant. Je l'attends à l'Allegro. Eh bien, moi, je suis très content d'elle.
Ce n'est sûrement pas une jeune fille, elle a trop d'expérience.
Qu'est-ce que tu paries ?
1948, les amoureux sont seuls au monde de l'ancien champion de natation et de waterpolo Henri Descoings. Les dialogues sont de l'épatant Henri Janson et à l'affiche Louis Jouvet. C'est un bijou d'intelligence, d'esprit, de sensibilité.
Ah ouais.
Ça commence par la célébration d'un amour magnifique, un amour de 18 ans. Et je vous laisse nous dire ce qu'il se passe ensuite, Jackie Berroyer.
Vous l'avez vu ?
Oui, bien sûr que je l'ai vu pour préparer l'émission. Ah. C'est magnifique.
Ah, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a une réplique dedans extraordinaire d'ailleurs. Parce que ça se passe avec un couple, mais ça passe par toutes sortes de choses. À un moment, il est dit, la femme dit, la vie est courte, comme on a l'habitude de le dire, et dit oui, surtout quand on la partage.
Oui, on dirait du Guitry.
Non, c'est quelque chose qui est très amusant, parce que dans un premier temps, et en même temps, ça comporte beaucoup de choses très lourdes, très tristes sur la vie, quoi, et les bilans qu'on peut en faire, tout ce à quoi on n'échappe pas. Je vais me permettre de raconter un truc. Parfois, c'est dommage, mais bon, je trouvais déjà une trouvaille extraordinaire dans le film. On voit Louis Jouvet qui arrive.
Qui est un compositeur de musique célèbre.
C'est un compositeur de musique, et il y a un plan extraordinaire qui est peut-être en studio, qui s'ouvre comme ça, qui ouvre le film. Il y a un jeune gars qui vend des porte-bonheur. Alors Louis Jouvet dit, qu'est-ce que tu vends là, des porte-bonheur? Bon ben, combien ça coûte? Tant. Eh ben, combien t'en as? 7. Eh ben, donne-moi 7. Et alors le gamin est content, ces trucs. Yves Jouvet va rentrer là-dedans, puis il lui dit, alors qu'est-ce que tu fais après? Où tu vas avec ça? Il dit, ah, je reste là parce que je reste près des restaurants, des cafés, parce que quand ils sortent, des fois, ils ont un peu bu. Alors il dit, ah oui, quand ils ont bu, ils croient au bonheur, et tout ça. Et alors il rentre dans un lieu où il y a des gens qui, à travers une vitre, qui répètent de la danse. Et puis il y a une femme qui est installée quelque part, qui travaille comme une secrétaire un peu, et il s'en approche, et il fait un peu le type qui fait le malin, qui la drague, qui donne des leçons et tout ça. Et elle répond sur un certain ton. Donc
elle l'envoie balader.
Je vous vois venir, insistez pas et tout et tout. Et alors tout ça dure un certain moment, et puis la surprise, c'est qu'au bout d'un moment, on les voit tranquillement en train de boire un thé et de se tutoyer, et en fait, c'est un couple. Et ils s'amusent à faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Ils ont joué à ça.
Ça fait 18 ans qu'ils sont mariés et ça commence comme une comédie sophistiquée et puis ça dégénère très lentement. Il est question d'adultère, un adultère qu'on soupçonne puisqu'il y a une jeune pianiste qui s'éprend du maître.
Oui.
Il y a un potin qui sort dans la presse à scandale qui dit que la jeune pianiste entretient une liaison avec Louis Jouvet. Et cette femme de Louis Jouvet, Renée de Villers, qui est magistrale, en prend ombrage, mais comme elle a une élégance folle, elle ne le dit pas.
C'est-à-dire elle le sent ce qui se passe, même si lui ne veut pas le reconnaître, qu'il est en train de s'intéresser un peu trop à la jeune fille. Et tout ça s'est fait en fait avec beaucoup de délicatesse, hein, et c'est très puissant et très attristant, parce qu'on voit que c'est au-delà de l'immoral. C'est comment l'humain est piégé dans des choses comme ça qui lui échappent.
C'est un chef-d'œuvre. Les amoureux sont seuls au monde.
Les hommes, en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas? Ils sont lourds et épais. Voilà ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Plus que méchants et bêtes, en plus. Mais ils sont surtout lourds et épais. Dieu qu'ils étaient lourds. Voilà tout ce qu'ils me font comme effet. Surtout quand ils s'imaginent d'être malins. C'est encore pire. C'est tout ce que je vois.
Et vous avez essayé d'être léger?
Oh, j'ai pas besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'essayer. Je suis le fils d'une réparatrice de dentelle ancienne. Je me trouve à avoir une collection assez rare, la seule chose qui me reste. Et je suis peut-être un des rares hommes qui sait différencier la Baptiste de la Valencienne et la Valencienne du Bruges, le Bruges de l'Alençon.
L'humilité du génie Louis-Ferdinand Céline au micro de Louis-Albert Zbinden sur Radio Lausanne dans les années 50. Vous avez choisi, Jacky Berroyer, une citation extraite de son premier pamphlet, Mea Culpa, publié en 1936. Attention, j'emploie le mot pamphlet littéralement, c'est-à-dire c'est un court écrit satirique dont le ton peut être ou pas violent. Il l'a écrit à son retour du RSS.
Oui.
Il était très déçu et la citation, vous la connaissez puisque vous la citez à l'occasion.
Oui, c'est l'homme, il est humain à peu près comme la poule vole.
Comment vous l'entendez, cette citation ?
Ben, il continue un peu le texte après, il dit, vous voyez la poule, elle s'élance là dans le poulailler, elle arrive un peu à aller sur les tôles, mais pas beaucoup plus loin, etc. Et donc c'est ça qu'il veut dire.
On ne peut pas s'élever ?
Ben, c'est-à-dire que... il dit la même chose que Sartre, son gros copain, entre guillemets, parce qu'il y avait conflit, mais Sartre qui dit que l'homme est en projet, enfin l'humain est en projet chez l'homme, il y a tout un travail à faire pour qu'il devienne un humain comme on pourrait le souhaiter.
Donc on aspire à la grandeur, mais nous sommes des créatures risibles, en
somme. Oui, puis c'était, à partir du moment où c'est un projet, peut-être que certains croient qu'on peut y arriver. D'ailleurs, moi, je pense que le monde se moralise un peu quand même, alors qu'il est... Alors ça, ce serait une grande discussion, hein. Il y a des statistiques... Vous savez que j'ai commencé très tard à m'intéresser à la philosophie. J'avais pas fait d'études philosophiques, mais un jour, je voulais m'y mettre. D'ailleurs, je suis passé par les bibliothèques municipales, c'est très très bien.
Ah oui, c'est parce formidable.
Que j'empruntais 10 kilos de livres et je les feuilletais. Et si quelque chose commençait à m'attraper, à ce moment-là, j'allais l'acheter pour moi, le livre, après. Et je l'ai fait la première fois avec un livre de Kant qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». C'est d'ailleurs un texte assez tardif. Et puis... il y avait une introduction, il disait que le monde est mauvais, que l'homme est terrible et tout ça, mais c'est facile, il suffit de descendre dans la rue, on voit ça tout de suite. Mais l'opinion héroïque qui consiste à dire que le monde va de mieux en mieux est celle que je vais défendre maintenant. Alors pour moi, c'était une entrée fracassante, très originale, qui m'intéressait, et ça continuait dans le livre. Voilà, et je crois aujourd'hui c'est un peu comme ça aussi. La statistique dit qu'il y a moins de guerres, moins de famines, tout ça. Mais évidemment, comment on sait
ça va
tout,
objectivement mieux.
Ça va objectivement mieux. Donc peut-être, il y a peut-être une moralisation de l'homme possible, une débarbarisation très très lente sur des millénaires, des siècles. Mais enfin bon, ça serait tout un sujet. Hein.
Jacky Berroyer, on vous connaît moins comme grand lecteur de philosophie, mais vous lisez beaucoup de philosophie. Vous avez même présenté pas si vite un divertissement philosophique sur Canal+, et vous avez suivi en auditeur libre les séminaires du philosophe Benny Lévy à Jussieu.
Oui.
Vous avez même travaillé sur lui. Vous êtes allé le filmer, non ?
Oui, je suis allé le filmer encore à Jérusalem après avoir enregistré et filmé un séminaire sur Alcibiade de Platon. Poser des questions, justement, au terme de ce séminaire sur des points précis, sur le sensé. Comment on peut savoir qu'il y a du sensé dans des textes? Et c'est très passionnant. D'ailleurs, j'en ai tiré un film qui s'appelle « Trace d'un enseignement ». On peut maintenant avoir ce petit doc qui s'appelle « Trace d'un enseignement » avec Benny Lévy. Et puis tout le séminaire. On peut le trouver aussi en vidéo. Il y aurait beaucoup à dire encore là sur Benny Lévy, parce qu'il a une réputation particulière, tout ça. Et moi, j'ai pas eu la même expérience que ceux de 68 et autres, des années 68. Il est après coup, Benny Lévy qui a versé dans le religieux, après avoir été un athée, Mao, etc., me disait un jour... avec tous les gens qui le critiquent et qui se moquent de lui. Il me dit, tu sais, c'est des gens comme ça qui voulaient changer le monde. Et puis maintenant, ils sont partis socialistes, où ils ont ouvert une boîte de pub, et ils se moquent de ceux qui continuent à chercher.
Vous cherchez, Jacky Berroyer ?
Moi, je cherche en tout cas à trouver des événements, des choses qui font événement chez moi, qui soient... Par exemple, je lis la philosophie avec inquiétude, je cherche à ce que ça retentisse. Et parce que sinon, hein, d'accumuler des notions et de comprendre des concepts, ça fait un peu de bien à l'esprit, hein, puisque c'est comme ça qu'il se... C'est sa gymnastique, c'est comme aller à la piscine pour le corps. faire un petit effort sur les concepts, ça donne quelques satisfactions. Mais moi, je lis avec plus d'inquiétude et d'émotion. Je suis en quête d'événements.
Vous avez apporté quelques lectures, on va les détailler tout à l'heure. Dans un instant, on évoquera aussi un texte rempli de sang et de poux, juste après Small Victories du groupe américain Lemon Twigs.
On s'amuse bien, on est en train de jouer au volley-ball et puis il paraît qu'il ne faut pas faire ça dans le studio.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec un filet de volley-ball en compagnie de Jackie Berroyer et du professeur Chauron.
Hello. Vous vous apprêtez à ouvrir une boîte de sardines. Après avoir humecté la bordure collante d'une feuille de papier à cigarette, posez-la à plat sur la boîte. Versez dessus une pincée de tabac. Ouvrez la boîte de sardines en tournant la clé normalement. Ouvrez-la bien jusqu'au bout. Il ne vous reste plus qu'à tapoter sur le couvercle enroulé pour en sortir une cigarette. Non seulement vous constatez que la boîte de sardines est ouverte, que vous avez roulé une cigarette, mais en plus, le couvercle enroulé devient un élégant fume-cigarette. Pour le prix d'une boîte de sardines, on en a vraiment pour son argent. Et qu'est-ce qu'on dit ?
1988, l'adaptation cathodique des fiches bricolage du professeur Chauron publiée dans la revue Harakiri, dont il est le cofondateur avec Cavanna et Fred, et où vous avez officié, Jackie Berroyer. Vous avez choisi ces fiches bricolage, j'imagine que c'est un choix affectif aussi.
Oui, parce que je trouve que ces fiches bricolage sont extraordinaires, et si c'était Harakiri et dans l'esprit de ceux qui ont connu ça, certains pensent que c'est scatologique, etc. Alors que bon... rien n'était interdit, donc il pouvait y avoir un étron au coin d'une page un jour, mais c'était pas du tout une obsession.
Un étron au coin d'une page, ça sonne presque comme une poésie.
Voilà, une virgule.
Oui.
Et alors, je vois les pommes de terre frites Coupe Davis avec une raquette, quatre pommes de terre comme ça, sur, comme des menhirs et un grand coup. Et effectivement, ça fait des frites, hein. On le voit. Et Chouron,
oui, tenez les auditeurs le voient.
Tenez à ce que ça marche. Et c'est ça que j'aimais beaucoup.
Ah, il testait ses fiches bricolage.
Il testait, par exemple, pour servir les invités un peu plus vite, un parapluie, et on verse la soupe dessous, comme ça, la soupe s'en va dans les assiettes très vite. Il faisait l'essayer, il disait, ça marche, donc je peux la faire, sinon, je suis pas à la hauteur de mon idée. Et il avait beaucoup d'idées absurdes, et je pense que, si au lieu d'être dans la petite France et Arakiri, ça avait été les Monty Python, il serait connu mondialement, hein, Chouron.
Alors, il y avait quelque chose de plus agressif malgré tout chez Chouron que chez les Monty Python.
Oui, il avait aussi ce côté... Mais si vous voulez, par exemple, il avait remarqué qu'il y avait des gens qui étaient contre la chasse, mais pas contre la pêche. Alors par exemple, on avait fait une couverture à un moment, à l'ouverture de la pêche. Alors, c'était dans une rivière, on voyait une fille, une femme... dont la tête sortait à peine de l'eau, elle était prise par un hameçon. Alors évidemment, il y a des gens qui ont dit « qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on fait aux femmes ?» Et c'était juste une manière de dire... Parce que Chouron me disait toujours, tu sais, il y a une différence d'approche et de sensibilité en fonction de ce qui nous ressemble le plus ou le moins. Quoi. Alors, un poisson, il y a même des gens qui disent « non mais ça leur fait rien l'hameçon ». Parce qu'en fait, Chouron a vécu à la campagne et tout ça, et il suivait un camion de bœufs qui va aux abattoirs, il avait l'alarme à l'œil. Alors après, il aimait bien emmerder les humains et les provoquer, à cause de leur sensibilité, comme ça, à différentes échelles et ouvertures.
Le rire bête et méchant, on le retrouve presque dans le remède suivant. Jacques Béroyer, vous avez choisi les chants de Mal d'Aurore de Lautréamont, alias Isidore Ducasse, qui est mort à 24 ans, dont on sait peu de choses. Ce sont des chants publiés entre 1868 et 69 à compte d'auteur. Et c'est d'une originalité hallucinatoire. Et dedans, il y a aussi l'éloge de la cruauté, mais contre la bêtise.
Oui, tout à fait. C'est vrai que Lautréamont, c'est comme Rimbaud, quoi. C'est d'une puissance incroyable, c'est fabuleux. C'est comme quelqu'un qui a tout compris. On lisait des textes de Rimbaud, on aurait pu croire que c'était un homme de 70 ans qui avait tout vécu, et puis on apprenait qu'il l'avait écrit à 18, 19 ans, voire 17 pour certains. Et Lautréamont, c'est pareil, hein, il y a le mystère du génie, quoi. C'est comme des musiciens comme Django Reinhardt, qui font tellement autrement que les autres, et d'un coup, et tout ça, et qui, on se demande d'où ça sort, enfin, ou comme Mozart. Il y a comme ça, parfois, quelque chose qui se produit chez des êtres et ils sont absolument inclassables. Et en littérature, Lautréamont est comme ça. Et il faut le comprendre, c'est pas du cynisme imbécile, du ricanement parce que on égorge un bébé, on le coupe en deux. D'ailleurs, nous dans Arakiri, on a connu ça beaucoup. Chouron me disait, les ventes sont beaucoup sauvées par des cons qui comprennent pareil que ceux qui nous détestent, mais sauf qu'ils nous aiment, mais ils voient pas l'idée derrière. Le simple fait de couper un bébé en deux, ça leur plaît eux.
Pour revenir à Lautréamont. C'est vénéneux, très sensuel, très sanglant. Il paraît qu'il a écrit ses chants en s'accompagnant au piano, en les lisant à haute voix et que ses voisins étaient dans un état assez désagréable. Vous appréciez la brutalité en art, Jacques Béroyer. Je crois que vous aimez les écrivains dérangeants. Vous en parlez dans Parlons peu, parlons de moi, qui est le recueil... Un recueil qui s'apparente plus à un journal intime, d'ailleurs, qu'à des chroniques musicales que vous auriez eues dans Vibration, puisque vous parliez finalement un peu de musique et beaucoup de vous.
Oui, en fait, c'est parti de chroniques de musique qui étaient dans un journal. L'éditeur du Dilettante, chez qui j'avais déjà publié un livre, m'a dit un jour, t'as pas quelque chose pour moi? J'ai dit non, je suis occupé à 36 autres choses, même dans tes tiroirs. Puis après, il a eu cette idée, il m'a dit, pareil que t'écris des bonnes chroniques dans une revue de musique. J'ai dit, bon, je sais pas si elles sont bonnes, mais on pourrait peut-être faire un recueil. Puis après, on s'est dit, un recueil, bon... Et puis, il y a l'idée qui est née de les commenter... j'aurais pu dire, pourquoi j'ai écrit ça il y a 15 ans, il y a 12 ans, je pense plus pareil, ou n'importe. Bon. Et puis finalement, c'est vrai que c'est pas mal comme système, parce que ça déclenche autre chose. Donc il y a des textes en italique qui sont d'aujourd'hui, et puis des fois qui démarrent derrière un texte qui avait été écrit 10 ans avant. Donc vous avez retrouvé là-dedans que je parlais d'écrivains dérangeants, je me souviens plus.
Oui, vous parlez de Maurice Saxe et de son sabbat.
Oui, oui.
Vous dites que vous aimez les écrivains dérangeants. Là, on a parlé de Lautréamont, de Céline. Choron, c'est autre chose, mais c'est un prisme pour voir le monde avec des aspérités.
Ouais, dérangeant.
C'est l'événement, à nouveau, comme la philosophie que vous lisez. Vous voulez que ça fasse événement, Jackie Berroyer.
Oui, mais dérangeant, ça veut dire que je veux pas voir le plus choquant.
Non.
Par exemple, Maurice Saxe, ce qui m'a frappé... Je lis ça, alors on lit des livres de salauds et tout ça, ou alors bon, alors il y a Céline, hein, donc, Céline par exemple a dit je suis un homme à style, je suis pas un homme à idées. Alors à part des petites idées comme des réflexions, des bons mots qu'il pouvait avoir, il a prouvé les deux quoi, il a un style extraordinaire, puis quand il a des idées fortes, c'est à peu près les mêmes que le crétin du comptoir. Alors même si après il les illustre avec une espèce de brio incroyable, et qui devient très très dérangeant, l'idée en soi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il peut y avoir même des salauds qui s'assument ou qui s'ignorent et tout ça. Mais l'autre, il est salaud. Par exemple, à un moment, il est homo et il voudrait bien être un peu comme tout le monde et avoir une femme et avoir un enfant et tout ça. Bon, ça finit par se faire et il en adopte un et tout ça. Mais au bout d'un moment, il lui plaît pas quoi. Alors il l'abandonne. Il fait plusieurs choses comme ça. C'était la période où un certain Maritain les embarquait tous, les artistes, tout ça, dans la chrétienté. Il se fait moine, il se tape un moine sur la plage, après il repart, il dit c'est pas la peine si c'est pour faire ça. Après, il a vendu des juifs pour des bijoux, il était juif lui-même, pendant la guerre et tout ça. Et donc, et des moments, il dit, c'est pas bien d'être comme ça. Il était très intelligent, il était sensible aux arts et tout ça. Donc, il comprend, il essaie de plus être salaud. Il n'y arrive pas. En voilà un qui m'intéresse parce qu'il est dérangeant, mais c'est pas que je
non, que vous partagez
ses
idées, absolument
pas. C'est pas que je jubile dès que j'en vois un qui me dérange, mais c'est que ça me frappe, ça m'étonne, ça me fait m'interroger.
Jackie Berroyer, vous avez apporté dans ce studio un livre de Jankélévitch, et j'aimerais savoir pourquoi, mais on n'a qu'une minute pour le découvrir avant d'écouter vos sérums musicaux. Est-ce que vous pourriez nous le dire? De quel livre s'agit-il?
Alors il était très lié à la musique, le philosophe Jankélévitch, hein. Alors là, ça s'appelle Debussy et le mystère de l'instant.
Debussy dont vous parlez dans Mon cancer, ma jaguar.
Ah, je parlais de lui là-dedans.
Ouais. Je vous ai plus lu que vous, en fait.
Je veux bien lire un petit peu.
Lisez un petit peu et après...
De son style sur la différence un peu entre le mystère et le secret.
Je vous en prie.
Alors, il y a le mystère et il y a le secret. La chose secrète, comme l'énigme du sphinx... n'est rien de plus qu'une devinette dont toute la problématique tient à des termes entortillés. La complication, l'imbroglio, sont les caractères essentiels de cet entortillement. Semblable au labyrinthe construit par l'ingénieux Dédale, le secret se fabrique, aussi résulte-t-il souvent d'une combinaison plus ou moins artificielle. Dans la forme négative de l'arcane, la chose secrète désigne simplement ce qui est refusé aux profanes et réservé aux seuls initiés, ce qu'il faut taire, mais qui est déjà su de quelques privilégiés. La marque distinguante du secret n'est donc pas l'impossibilité de connaître, mais l'interdiction de divulguer, principe des sociétés closes. Autour du secret se referment les arcanes élusiniens de l'occultisme, de l'ésotérisme et de l'hermétisme. Tel est le chiffre ou mot de passe que les clercs gardent artificiellement secret. Car ce mot est plutôt cachotterie que mystère, plutôt réticence que silence, factice, conventionnel et arbitraire. Le secret est jalousement gardé par ceux qui en ont le dépôt. C'est le sectaire qu'il cache, ce n'est pas la vérité qui l'enveloppe. De là vient qu'il ne soit jamais insoluble et qu'une herméneutique relativement simple permette de le déchiffrer. Le secret, problème local et ponctuel, nous intrigue sans englober notre destinée dans la nuit. Alors, c'est pour dire après que le mystère, c'est ça la grande chose à laquelle s'intéresser, puis que le secret, c'est un peu provincial.
Hot ginger and dynamite, dance on back it with the fellas to the baggy and the women wink it back. They got a way that to entertain would hurry a hurricane. Back it, hack it, sack it with the fellas to the baggy and the women wink it back. A Fujiyama, you get a mama, then your troubles increase, boy. It's a pagoda, you want a soda, her shake, milkshake, 10 cents a piece. They hug you and kiss each night, my jingle boy is worth that price. Back it, hack it, sack it with the fellas to the baggy and the women wink it back. Oh mama, pop that beetle beetle,
she said, I'm the baba and the boo boom de doo. I'm the hottest chicken in this coop. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy baggy boo. Oh, ba do ba dum de boo bum de bee bum de boo bum de bee bum de ba da 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 da. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy baggy boo. Fujiyama, you get your mama, then your troubles increase, boy. Iskibaddle, 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 nanky zanky. They hug you and kiss each night, fine jingle boy is worth that price. Oh, naggy, oh, saggy, oh, wiggy baggy boo.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Jackie Berouet qui vient de nous faire écouter Nagasaki, interprété en 1937 par les Mills Brothers, un standard de jazz américain composé en 28 par Harry Warren et Mort Dixon. J'ai choisi ça pour la virtuosité, Jackie Berouet, parce que c'est un groupe vocal.
Oui, parce que c'était vraiment des frères, bon, ils s'appellent les Mills Brothers. Alors, il y en a un qui a une guitare, c'est tout, une guitare acoustique, et tout ce qu'on entend, c'est leur voix. Aussi bien la basse que ce qui peut avoir l'air d'être la trompette et puis les chœurs et tout ça. C'est fabuleux à voir. Et je conseille d'ailleurs d'aller voir ça sur YouTube. On peut les voir dans les années 30 dans des extraits d'un film, et en particulier sur un titre qui s'appelle « How I'm Doing ». Et ça, je le recommande.
Vous qui êtes un grand mélomane, voici l'un de vos titres fétiches.
What's the ugliest part of your body? What's the ugliest part of your body? Some say your nose, some say your toes. I think it's your mind.
1968, un titre que vous évoquez souvent dans la presse, Jackie Berouet, What's the ugliest part of your body, de Frank Zappa.
Bah oui, c'est rigolo, le texte.
Quelle est la partie la plus laide de votre corps?
Oui, alors il y en a, certains pensent que c'est votre nez, d'autres pensent que c'est vos pieds, vos doigts de pied, et moi je pense que c'est votre esprit, quoi. Enfin bon, en américain, your mind. Frank Zappa, c'est encore un monde énorme. Il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent. En fait, il a des choses adorables et d'autres détestables. Peut-être pas détestables, mais enfin, moins fortes parce qu'il a... Ah, c'est toujours pareil. Moi, je suis capable de lire, ou d'entendre, ou de voir tout et de ne pas...
Émettre de jugement immédiat.
Bah, c'est-à-dire que ce qui est raté, ce qui est révoltant, va pas m'empêcher d'avoir apprécié les autres choses.
Jackie Berouet, vous avez décidé de terminer sur une histoire drôle, et vraiment je vous applaudis parce que c'est assez courageux de votre part. Quand on dit à quelqu'un raconte-nous une histoire drôle, normalement...
Oh, ça fout les jetons.
Oui.
C'est parce que c'est
l'autre livre de Michel Butel.
L'autre ville, Michel Butel est quelqu'un qui est mort il y a pas longtemps et tout ça, qui était donc comme ça, comme tout, quelqu'un qui est tout le temps un peu dans l'opposition et qui essayait de faire des choses. Alors il y a une partie d'un de ses livres où il a mis quelques histoires drôles. parce qu'il repensait à certaines personnes qu'il aimait beaucoup et pensait à leur rire. Alors je disais, si je lui avais raconté à elle, alors elle aurait ri.
Les personnes mortes.
Je l'entends. Enfin, il y en a une comme ça qui est... On a deux gars, deux amis qui vont ensemble au cinéma voir un western. Et au moment où le film a commencé, il y en a qui se penchent à l'oreille de l'autre, qui dit, tu vois, le type sur un cheval, là. Et moi, je pense qu'au cours de l'histoire, il va tomber du cheval. Alors l'autre, il dit, bon, je te parie 100 balles. L'autre dit, allez, paris tenu, mais moi, je dis qu'il tombera pas. Puis le film se déroule, et puis le type tombe, il reçoit une flèche par un Indien, peut-être. Et alors, à la sortie du film, l'autre sort un peu son argent, pour dire. Et le précédent lui dit, arrête, laisse tomber, je dois t'avouer que j'ai triché. En fait, je l'avais déjà vu. Et l'autre, il dit, moi aussi, mais je pensais pas qu'il allait tomber une deuxième fois.
Merci beaucoup, Jackie Berroyer. Merci d'être venu dans cette émission. Vous serez bientôt sur Canal+, dans la série adaptée du film Hippocrate de Thomas Lilti. Et je rappelle le titre de votre dernier recueil, Parlons peu, parlons de moi. Et c'est aux éditions Le Dilettante. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes, tout est sur le site. Comme toujours, j'espère que vous éprouvez le ravissement de l'épouse d'un Kouglof en satin. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de l'éditrice Teresa Crémisi.